Je vous propose que nous commencions. Je pense que les personnes qui arriveront au fur et à mesure, ne leur en tenons pas rigueur. Bien. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder le deuxième volet de cette exploration que nous avons commencé de la pensée traditionnelle de la Chine. Nous avions vu les fois précédentes le confucianisme et la personne de Confucius. Aujourd'hui, on va aborder un mouvement qui est nettement, je pense, plus difficile et plus éloigné de nous, qui s'appelle le Tao, le taoïsme. Et les deux dernières, donc, la prochaine séance sera également consacrée donc au Tao avec une lecture de textes qui seront un atelier de lecture de textes qui seront distribués à la fin de la séance. Est-ce que tout le monde m'entend? Il n'y a pas de problème, donc c'est la peine que je me serve du micro et tout ça. Et donc aujourd'hui, on va aborder donc ce mouvement du taoïsme. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être le plus éloigné de la pensée occidentale, de la pensée, j'irais dire, usuelle, normale que nous avons. Et je pense que c'est aussi un mouvement qui a été quand même souvent présenté de manière et d'autre en France, et souvent avec des pièces détachées, parfois un peu des pièces disparates. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette affaire du yin et du yang, par exemple, ou de choses comme ça. Et donc, souvent, c'est des petits morceaux du taoïsme qui sont pris, qui sont sortis du contexte, d'ailleurs d'un contexte qui n'est pas facile à cerner. Donc, on comprend que, du coup, les personnes se rabattent, en quelque sorte, sur des choses qui sont un petit peu cernables et puissent les présenter comme ça, tout de go. Et le résultat de ça, c'est que, finalement, il n'y a pas une vue, très nette ici du taoïsme, et chose d'ailleurs assez paradoxale, je pense, également en Chine, et également depuis longtemps, parce que finalement, on verra un peu comment, mais je pense que la tradition philosophique, bonjour, la tradition philosophique du Tao, finalement, en Chine, a été assez rapidement, relativement détournée, parce que justement, c'est une tradition philosophique difficile, qu'on pouvait assimiler à une sorte d'ésotérisme, et le taoïsme philosophique qui en est sorti a été finalement quelque chose qui permettait aux personnes, notamment un certain nombre de hauts fonctionnaires, de ce qu'on appelait des lettrés, de s'accommoder comme ils pouvaient des duretés du temps, et qui ont été en général assez dures en Chine. Alors nous, on va essayer d'aborder cette doctrine, de la replacer dans son cadre, et on va voir que à l'origine, pour comprendre cette doctrine, il faut comprendre un petit peu, avoir des notions de ce qu'on appelle la religion paysanne, dont je parlerai aujourd'hui. Parce que c'est là-dessus qu'est basé la plupart des principes qui viennent du Tao. Alors, pour présenter un petit peu l'affaire, le livre 18 des Entretiens de Confucius, dont je vous ai parlé pas mal les fois dernières, est consacré à des personnages qu'en général, dans la plupart des traductions, on appelle des ermites. Alors, qui sont ces ermites? D'ailleurs qui souvent n'en ont que le nom, hein, parce que ce n'est pas des ermites qui vivent tout seuls, c'est des gens qui vivent une vie retirée et une vie souvent paysanne, d'autosuffisance. Mais des personnes qui normalement, vu leur connaissance, devraient être à la ville. Il faut bien voir qu'à l'époque de Confucius, comme jusqu'à l'instauration de l'Empire chinois, à peu près 2e siècle avant Jésus-Christ, il y a une forme au niveau de la civilisation d'opposition entre le monde des campagnes et le monde des villes. Partout, évidemment, il n'y a pas les mêmes mœurs dans les campagnes que dans les villes, mais là, c'est carrément des manières de penser très différentes, on pourrait presque dire des doctrines différentes. Et le confucianisme, que nous avons vu les fois dernières, se répand dans le monde des villes. Les disciples de Confucius sont des lettrés, sont des hommes qui habitent la ville, qui en général font partie de la très petite noblesse. Donc, dans ce livre 17 des entretiens de Confucius, on voit le maître qui erre à travers la campagne, comme il l'a fait pendant plus de 10 ans, vers la fin de sa vie, essayant de trouver un roi sage pour où placer ses disciples, où placer ses conseils. Et il y a différents épisodes où il est confronté à des personnes que l'on appelle justement les ermites. Alors je vais vous relater l'un de ces épisodes, l'un des plus fameux. Donc Confucius et ses disciples, il faut imaginer une petite troupe de moins de 10 hommes, peut-être 7 ou 8 hommes à peu près, sont en train d'errer comme ça sur la campagne chinoise, ils sont à peu près perdus. Confucius, comme toujours, est sur son char. Le char de l'époque, c'était un truc assez simple, mais il y avait un cheval quand même. Et donc il est entouré par ses disciples qui, eux, vont à pied. Parce que Confucius pensait qu'un maître ne peut pas être à un niveau inférieur que de se promener en char. Enfin bon, il a quand même fait une bonne partie de ses voyages à pied après, parce qu'il y a quand même des temps plus durs. Ils sont perdus et ils cherchent un gué pour passer la rivière. Ils aperçoivent deux hommes qui sont en train de cultiver un champ. Donc vous voyez, on appelle ça des ermites, mais donc ce n'est pas des vrais ermites, vu que déjà ils sont à deux à la fois, et bon, ils se présentent plutôt comme des sortes de paysans. Alors, Confucius envoie un de ses disciples pour demander aux paysans qui lui indiquent le chemin pour le gué. Mais ce ne sont pas des paysans ordinaires. Une fois que le disciple a demandé où est-ce qu'on peut trouver le gué pour passer la rivière, il y a le paysan qui lui demande qui est l'homme qui est dans le char. Le disciple répond, c'est Confucius. En ce cas, dit le paysan, il doit savoir où est le gué. Alors le disciple, il n'a pas grand-chose à dire, il est quand même un peu surpris de tout ce qui se passe, parce que lui, en tant qu'homme des villes, il pensait tomber sur le paysan, sur un gars plutôt simple mais sympathique. Et le paysan demande au disciple qui il est. Le gars lui dit qui il est, je crois que c'était Zoulou, si mes souvenirs sont justes. Et le paysan lui dit, le monde est comme un torrent qui se précipite, qui vous aidera à le réformer ? Au lieu de suivre un homme qui louvoie des uns aux autres, ne feriez-vous pas mieux d'en suivre un qui s'est retiré du monde ? Et donc là, le masque est abattu, ce n'était pas un paysan normal, c'était un taoïste. Alors, je dis que c'était un taoïste, mais à l'époque, le taoïsme n'existait pas encore en tant que mouvement, si vous voulez. Mais donc, c'est, comme on le verra tout à l'heure, c'est un des mouvements les plus anciens de la pensée chinoise et les moins formalisés, contrairement au confucianisme, au mozuïsme, ou des choses comme ça, qui sont des mouvements avec une vraie école. C'est par la suite, si vous voulez, que plusieurs siècles après, que le taoïsme deviendra lui aussi en premier une école philosophique et ensuite une religion. Mais donc, là, on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui a une activité de paysan, mais qui peut tenir tout à fait, non seulement un discours philosophique, mais complètement troublé l'un des meilleurs disciples de Confucius. Et en plus, il ne lui a pas dit où était le gué. Donc, ensuite de quoi, le paysan se remet à travailler et n'attache plus aucune importance au disciple Zoulou, donc il se tient tout droit à côté d'eux, il faut l'imaginer avec la tenue des lettrés, et très droit, et l'autre ivoirien de mieux à faire finalement que de retourner vers Confucius, et puis il lui répète les propos qu'a tenus l'ermite. Et à ce moment-là, Confucius s'exclame, « On ne peut tout de même pas s'en tenir à la compagnie des bêtes et des oiseaux. Si je ne peux attendre aucune aide des hommes, vers qui irai-je? Si la voix régnait sous le ciel, est-ce que je chercherai à y changer quelque chose ?» Bon. Alors, moi, je trouve ça, c'est, même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui, le confucianisme, c'est très beau. Et en plus, je pense que ça explique bien la différence entre les deux discours. On a d'un côté un homme. On va peut-être détailler un peu les arguments du faux paysan. Alors, cet épisode, si vous voulez, nous montre que du vivant même de Confucius, il existait déjà un courant de pensée qui lui est vraiment opposé. Qui est représenté ici par le paysan et par d'autres gens qu'on trouve dans les entretiens de Confucius. Et de toute façon, c'est un peu un prêté pour un rendu, parce que, en sens inverse, dans la plupart des livres taoïstes, je pense au Zhuangzi, qui est le livre peut-être le plus important du taoïsme philosophique, il y a un chapitre entier qui est consacré à Confucius. Mais évidemment, c'est un Confucius imaginaire. et on lui fait jouer différents rôles. Mais en général, assez bon quand même. Donc, il y a un courant de pensée qui est opposé. Les principales caractéristiques de ce courant apparaissent déjà dans l'extrait que nous avons lu. Nous avons affaire à des hommes qui sont retirés des affaires, retirés du monde et retirés de la fréquentation de leurs semblables. Donc, déjà par ça, on voit que c'est exactement le contraire du confucianisme qui, lui, cherche à vivre avec les hommes, à conseiller les hommes, donc si je vis tout seul, je ne peux pas conseiller grand monde, et également à conseiller les dirigeants politiques. Ces gens-là sont retournés à une vie d'autosuffisance. Donc on va voir que même par la suite, dans le taoïsme, on va avoir affaire à des personnes qui arrivent à non seulement avoir une vie d'autosuffisance, mais même à se nourrir de pratiquement rien. Voire, il paraît que les plus grands sages du taoïsme qui vivent en montagne arrivaient à se nourrir de nuages et d'aiguilles de pin. Donc vous voyez, on peut arriver... l'alimentation était quelque chose de... Tout ce qui concernait le corps était quelque chose de très très important pour ces gens-là. Alors, ils savent manier la dialectique. Quand on voit la manière dont le paysan retourne, en quelque sorte, le disciple de Confucius, et souvent c'est quand même quelque chose qui est beaucoup utilisé, peut-être là on ne le voit pas énormément, mais dans les dialogues taoïstes, cette manière de créer une forme de vertige, de déstabilisation chez l'interlocuteur. Ça, on reviendra là-dessus. Ce sont des gens qui connaissent la controverse et qui se servent de formules extrêmement lapidaires. Contrairement au discours de Confucius qu'on entend par la suite, qui est un discours qui est plus argumenté, qui exprime mieux ce que cette personne pense, l'autre finalement, quand on voit ce qu'il dit, il dit « Le monde est comme un torrent qui se précipite. Qui vous aidera à réformer? Au lieu de suivre un homme qui louvoie des uns aux autres, ne soyez-vous pas mieux d'en suivre un qui s'est retiré du monde ?» Ils ont une perception du monde comme étant un tout et un flux. Là, ça paraît quand il dit « le monde est comme un torrent qui se précipite ». Il y a vraiment cette idée que le monde est un tout et un tout en mouvement. Ils n'hésitent pas, alors là, c'est vraiment caractéristique de ces gens-là, ils n'hésitent pas à se comporter avec une grande liberté, peu importe quel est l'interlocuteur, dans leur relation avec autrui, et sont souvent extrêmement ironiques. Ces hommes sont les prédécesseurs des penseurs taoïstes et incarnent une tradition chinoise très ancienne. Alors, pour parler de cette tradition chinoise très ancienne, je pense que je suis obligé de faire un détour qui peut être peut-être un petit peu long, mais qui va, je pense, apprendre des choses extrêmement importantes pour parler, en quelque sorte, des conceptions globales, qui ne sont pas des conceptions philosophiques, qui sont des modes de vie qui ont donné naissance au mouvement du Tao et en fait aux religions paysannes chinoises. Alors, pour ce faire, nous devons remonter aux origines de ce que nous avons de la civilisation chinoise. J'ai pas tellement d'idées, mais parce que je pense que ça remonte vraiment à loin. Je crois que les formes d'écrits déjà construites les plus anciens, on arrive à 6000 ans à peu près avant Jésus-Christ, pour avoir une idée. Et avant qu'il y ait vraiment de l'écrit, les premiers écrits, comment dirais-je, sont souvent sous des formes de... des choses qui sont marquées sur des vases votifs. Et donc, c'est juste des formules, donc ils ont... Enfin, que d'un point de vue ethnologique, on pourrait dire, moi, le duc, machin, le troisième jour du quatrième mois, il fait une libation de ceci, cela. Donc, ces écrits auxquels je pense, qui nous renseignent, par exemple, sur la vie des premiers Chinois, c'est notamment un livre que peut-être Confucius avait été l'un des compilateurs, qui s'appelle le She Jing, le livre des odes, et qui, en fait, des odes ou des poèmes, vous trouvez traduction en français, ce sont des poésies populaires et qui étaient des poésies, on pourrait dire, spontanées. On va voir qui étaient faites dans quelles conditions, qui étaient faites, il y a toutes sortes de cas, mais souvent par le groupe des garçons et le groupe des filles dans les villages, avant qu'ils aient des sortes d'unions collectives. Et donc, mutuellement, ils s'envoyaient des sortes de... Bon, ils ne savaient pas que c'était de la poésie à l'époque, hein, mais des sortes de, je ne sais pas comment dire, de chansons comme ça. Et il fallait répondre d'une manière un peu spirituelle pour pour toucher une personne ou pour quoi que ce soit. Comment ? Oui, oui. Alors, mais vous allez voir que donc là, on va faire comme un petit plongeon et arriver à une situation qui est très différente de la nôtre actuelle, qui n'est peut-être pas forcément différente, je pense, mais nous, on n'a pas, en Europe, je pense qu'on n'a pas de traces écrites sur ces époques-là, mais de ce qu'étaient les premières populations sédentaires. Sédentaires et donc paysannes. Donc, on est sorti de, comment on pourrait appeler ça, de l'âge d'or, où l'homme vivait de la... l'homme était peu nombreux, et vivait de la chasse et de la cueillette, hein. Mais il y avait tout à profusion, vu qu'il y avait très peu d'hommes et qu'il y avait beaucoup de bêtes, quoi. Et pour ensuite arriver à des époques où on a commencé à cultiver et à avoir un autre mode de vie. Alors, la plupart des informations que j'ai ici, je l'ai tirées d'un livre d'un spécialiste qui s'appelle Marcel Granet, qui est déjà un livre assez vieux parce que c'est des années 1920, mais pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs qu'on a fait sur le sujet, surtout le plus complet, et qui s'appelle « La religion des Chinois ». C'est un livre qu'on trouve encore. Alors, je vais vous faire quelques lectures de passages choisis pour que vous voyez un peu la manière dont quels étaient les grands rythmes qui étaient ceux de la vie de ces personnes-là, et on va voir que c'est des grands rythmes qu'on va retrouver dans la vue du taoïsme sous une autre forme. Les paysans habitaient dans des villages placés sur une hauteur et enclos en général d'une haie vive. Certains étaient troglodytes, peut-être presque tous le furent-ils anciennement. Les basses terres étaient réservées aux cultures. Les sillons, tracés de l'est à l'ouest et du sud au nord, se croisaient, et les champs étaient carrés, séparés par des bordures en friche qui servaient de chemin et où étaient construites de petites cabanes. Elles abritaient les travailleurs, ils y demeuraient pour surveiller leurs récoltes, et sauf pendant la morte saison, ils ne quittaient point leurs champs. Ils ne voyaient leurs femmes qu'au repas, elles leur apportaient aider des enfants. Donc, il faut bien imaginer qu'on a affaire à des petits villages qui sont sur des hauteurs, qui sont entourés d'une sorte de haie, et en contrebas, il y a, bon, ce qui est normal, les champs que l'on récolte, que l'on cultive. Et vous allez voir qu'en fait, c'est une civilisation qui est basée essentiellement sur ces formes d'opposition. Là où on habite, c'est le haut, là où on travaille, c'est le bas. Les hommes travaillent, quand c'est la saison des moissons, etc., c'est pendant tout le temps, sauf l'hiver, et les femmes restent à la maison. Il y a une séparation très très nette dans ce genre de communauté des deux sexes. On appartient ou au groupe des hommes ou au groupe des femmes. C'est ça l'entité. C'est pas comme maintenant où l'entité est la famille ou le couple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on fait partie du groupe des hommes, et dans ce cas, comme tous les hommes, on descend dans la plaine et on passe son temps à s'occuper des champs, on habite une sorte de petite cabane qui est mise là, et on voit sa femme et ses enfants qui vous apportent juste le repas à midi, la gamelle. Et c'est une vie assez dure. Et après, on va voir que quand c'est l'hiver, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va le voir par la suite, l'homme remonte, parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire dans les champs en hiver, l'homme remonte, et là, la femme a beaucoup de travail, de tissage, de choses comme ça, etc. Donc, mais gardez dans l'idée cette forme de séparation très forte qui est entre les activités des hommes, le rôle des hommes et celui des femmes. Et également, ils ne sont pas au même endroit géographiquement. Il y a tout en quelque sorte qui les oppose, mais pas du tout dans une opposition comme on pourrait penser, nous, je ne sais pas comment dire, masculin, féminin, où l'homme incarnerait certaines vertus et la femme d'autres vertus. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partition des rôles. Et il y a une idée en quelque sorte d'une rythmicité de la vie. Bon, rythmicité qui est donnée partout à la fois, hein, par le mode de vie agraire, par tout ça à la fois. C'est-à-dire que où on suit le rythme de la nature, ce que les autres appelleront par la suite, où on suit le Tao, où on suit la voie, où on s'en écarte parce qu'on veut faire différentes choses, et là on peut très bien arriver aux pires échecs. Le grain battu et engrangé, ils remontaient au village, réparaient les toitures, bouchaient les fentes des murs et s'enfermaient dans leur maison pour passer les froids durs et secs de l'hiver. Ils se reposaient comme la terre, fatigués d'avoir produit. Pour les femmes, au contraire, ce n'était point alors la morte saison. Elles filaient le chanvre et tissaient les vêtements. Les deux sexes se relayaient donc au travail. Celui-ci, réglé par le rythme alternant, se modelait sur la succession des saisons humides et sèches, si bien marquées dans les plaines de l'Asie orientale. Tout au long de l'année, dans les champs cultivés en commun, comme dans leur village enclos, les paysans n'ont de rapport qu'avec les membres de leur parenté. Un village enferme une vaste famille très unie et très homogène. Donc là, on voit bien aussi que c'est un monde qui est un monde clos, qui fonctionne sur ce qu'on pourrait appeler la famille au sens étendu, ou le clan. Et donc, ces gens-là, normalement, n'ont pas de rapport avec d'autres villages. Ils fonctionnent... Comment ?
Les mariages.
Je vais y venir. Parce que vous allez voir que c'est effectivement ce qui va se passer d'une manière différente, mais pendant tout le temps du travail, le temps du travail est le temps du travail, que ce soit le travail masculin ou le travail féminin, donc le travail masculin pendant le temps où on travaille les champs, le travail féminin surtout pendant l'hiver. Et donc on voit que comme ça, au fur et à mesure, il y a des associations qui se mettent en place. Par exemple, je vais en parler à l'instant, l'association féminin-hiver. L'association masculin-été. Ce n'est pas du symbolisme. C'est-à-dire que, c'est, là c'est descriptif, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire pas qu'on essaie de dire, bon, il y a le froid et le chaud, alors vu que de l'autre côté il y a une autre paire de choses antagonistes, mettons homme et femme, alors est-ce que j'associe les hommes avec le chaud ou avec le froid, inversement ? Non, c'est pas ça, c'est que c'est les hommes qui travaillent les champs, donc on travaille les champs quand il fait chaud, et quand toute la maison est entièrement refermée sur elle-même, et que là il y a le lin à tisser ou des choses comme ça, c'est le travail que font les femmes. La distribution alternée du travail accompagnait une forte opposition entre les sexes, qui se traduisait encore par l'interdiction de contracter mariage à l'intérieur de la parenté. À chaque génération, la moitié des enfants, tous ceux d'un même sexe, devaient abandonner le village familial pour aller se marier dans un village voisin, échanger contre un lot de jeunes gens de même sexe et d'un autre nom. Donc en fait, là on voit comment les villages se recompose en quelque sorte, c'est-à-dire que lorsque c'est la saison, pour une même génération, mettons, on donne tous les jeunes garçons et on reçoit tous les jeunes garçons d'un autre village à qui on les a donnés. Les assises des communautés rurales consistaient en de puissantes orgies, où s'affirmait à la fois la force du groupement familial et du groupement politique. Marquant le temps du rythme selon lequel alternait le travail féminin et masculin, elles avaient le caractère de grandes fêtes sexuelles où s'opéraient des échanges matrimoniaux, grâce auxquels chaque groupe possédait de façon permanente des otages de tous les autres et leur envoyait des délégués. Ces fêtes de la concorde paysanne étaient aussi des fêtes du mariage et des fêtes de la fécondité. Alors là, on va décrire un peu ce qu'étaient ces fêtes qui avaient lieu en fait deux fois par an. Alors, ce n'est pas deux fois les mêmes fêtes. Vous voyez, on est toujours dans quelque chose d'assez pair. Il y a toujours une forme d'opposition. Il y a celle qui se passe avant le travail des champs, avant l'ensemencement. Et donc, vous voyez, c'est à la fois l'ensemencement des champs, mais c'est également l'ensemencement des hommes, enfin des familles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que donc, avant qu'on commence à ensemencer les champs, on réunit, donc, mettons, deux villages. Alors que normalement, ils ne sont pas du tout, ils n'ont pas de lien entre eux. Et il y a par exemple les jeunes gens d'un village qui vont devenir ceux du deuxième village et donc épouser les filles du deuxième village en question. Et donc, c'est à ce moment-là donc qu'il y a rencontre entre les jeunes gens qui ne se connaissent pas, qui viennent de deux villages, oui. Pardon ? Oui, exactement, tout à fait. Tout à fait. Donc le premier, c'est avant le printemps chinois. Et le deuxième, c'est à l'automne. Alors, les assemblées des communautés rurales se tenaient en des lieux consacrés. Là aussi, ça ne peut pas être dans un lieu qui est un village ou l'autre village, ou les champs d'un village et les champs de l'autre village. Il faut que ce soit dans une terre qui n'appartient ni aux uns ni aux autres, mais qui pour cette grande cérémonie a des caractéristiques tout à fait particulières. Donc ces lieux, ce sont des lieux consacrés. C'était hors des champs cultivés, dans une partie du territoire soustraite à l'appropriation domestique et aux utilisations profanes. sur un sol qui pour tous est un sol saint. Donc il faut bien voir, si vous voulez, donc ce n'est pas un sol qui peut être cultivé. On a aussi cette idée qu'on retrouvera dans le taoïsme, c'est-à-dire que les choses doivent avoir leur fonction, en quelque sorte, et ne pas en varier, quelque part. Et donc là, il y a un lieu spécial pour le village, qui sert, donc qui est complètement en dehors des terres du village, et qui sert à cette rencontre entre les jeunes gens. Elles demandaient, pour déployer leur pompe traditionnelle, un terrain varié. Alors vous allez voir tout ce qu'il faut dans le terrain, hein. C'est pas un simple champ. Hein. Avec des bois, de l'eau, des vallons et des hauteurs. Là se répandait la foule des pèlerins, venus de loin en char, souvent vêtus des habits de la saison, frétissés et dont l'éclat tout neuf disait la prospérité de chaque famille. Donc pareil pour cette fête, je ne peux pas y aller avec un vêtement que j'ai déjà porté. Il faut que tout soit neuf, parce que cette fête va marquer le renouveau de tout. De la famille, donc il va y avoir de nouveaux couples qui vont se créer, de la nature, on va se mettre à, à semer les champs, et donc avec le printemps, il y a le renouveau global, et donc pour les personnes, c'est quelque chose qu'on va voir par la suite, c'est cette fête qui permet le renouveau, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une vue mécanique du monde, si on ne fait pas bien la fête, le renouveau se fera mal, et le travail des champs se fera mal, ou le temps sera au contraire, etc. Les rites sexuels des fêtes printanières avaient à peine besoin de voir leur effet complété par la communion alimentaire. Il suffisait, en somme, aux fiançailles. Mais au moment de l'entrée en ménage, établir une identité substantielle qui rendra possible la vie en commun devient la préoccupation principale. Donc là, on parle des fêtes d'automne. Une grande orgie de boissons et de nourriture fut l'essentiel des fêtes d'automne. Les pratiques sexuelles y étaient secondaires. De même, le yin et le yang, donc voilà nous y venons, se donnent rendez-vous au printemps et à l'automne. Ils s'affrontent alors. Parce que en été, dans cette vue des choses, le yang est complètement, on va voir après ce que c'est avec le yang, est complètement prédominant. En hiver, c'est le yin. Mais au printemps et à l'automne, il va bien falloir qu'on passe de l'un à l'autre. Et donc il va y avoir au fur et à mesure une rencontre, et puis c'est celui qui avant n'était pas prépondérant qui va devenir prépondérant. Puis, pour féconder le monde et en constituer l'harmonie, il s'unissait sexuellement, leur union splendide se manifeste par l'arc-en-ciel. Séparés après ces noces, ils se relayent dans leurs travaux. Le yin, comme les femmes, est actif en hiver, et son activité qui est d'ordre intérieur ne peut s'exercer qu'en des lieux retirés, sombres et clos. Le yang, comme les hommes, travaille pendant l'été, au plein jour, à grand rendement. Yin a pour sens ubak, vous allez voir, nord de la montagne, sud de la rivière. Yang a pour sens adrei, sud de la montagne, nord de la rivière. Les noms des deux principes s'expliquent par l'aspect du lieu saint et sont un souvenir des versants ensoleillés ou sombres où se plaçaient les cœurs opposés des garçons et des filles. Donc, il faut se représenter un petit peu la chose. Vous avez ce qu'on appelle donc le lieu saint, qui est quelque chose où passe une rivière. Je ne vais pas la rivière, mais on comme ça, d'accord. Et vous avez ici, il faut qu'il y ait une hauteur et qu'elle soit à l'ombre. Et donc, au nord, ici, vous avez le groupe des femmes, d'accord, des jeunes femmes. Au sud, de l'autre côté, au soleil, vous avez le groupe des jeunes hommes. Et en fait, ils vont se rencontrer, ils vont s'unir en traversant cette rivière. Cette partie qui est ombragée, ça s'appelle le yin. Cette partie qui est en plein soleil et où sont les garçons, ça s'appelle le yang. Par exemple, même dans l'appellation actuelle du soleil, Tai Yang, en chinois, donc c'est le caractère du yang. Ici, modeste, moi j'avoue que je ne connaissais pas ces mots-là, enfin peut-être que c'est vrai qu'ils ont plus de réduction que moi le connaître. En français, pour ça, il y a le mot ubak. J'avoue que je ne connaissais pas.
C'est la mère, c'est la vraie. Et c'est ce que veut dire ces deux caractères. Yin, c'est la partie qui est ombragée. Yang, c'est la partie qui est en plein soleil. Et donc, qui correspond à l'ubac et à la vraie. À l'ubac. Pardon, excusez-moi. Alors, il faut bien voir que là, on est dans une configuration où, pour les gens qui vivaient ça, tout se tient. Parce que là, ça va être la grande journée de leur vie. C'est une fête auquel tout le village participe. Ils ont vécu dans la séparation des garçons et des filles, des différents travaux qui sont faits, sans cesse une notion d'opposition constructive, de rythme qui se relaie. Et donc là, à un moment donné, on va franchir la rivière. Et alors c'était justement au franchissement de cette rivière que au fur et à mesure on se rapproche, et d'un groupe à l'autre on s'envoie des poésies, des colibets, etc., etc., comme ça, et puis chacun essaie de choisir la personne qui semble, parfois il peut y en avoir plusieurs pour une même, mais encore bon, la personne qui lui semble la plus appropriée. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que donc c'est les filles hein, qui, normalement, qui doivent franchir les jambes nues la rivière. J'insiste sur ce détail parce que aussi pour les gens, dans la représentation qui est la leur, la rivière est ce qui permet également aux âmes des morts de passer. Parce que dans les maisons chinoises à l'époque, et enfin c'est tout à fait normal, on mettait les dépouilles des morts donc dans un coin qui était un petit peu isolé, enfin qui était isolé, et au fur et à mesure, ils avaient remarqué donc ces dépouilles se mêlaient au sol avec le temps qui passe. Et donc, il y a l'impression que les morts retournent au sol. Et, en même temps, pour eux, quelque chose qui retourne est quelque chose qui doit ressortir. Il n'y a pas de... c'est jamais définitif. Tout est une question de rythme. Il y a une sorte de circularité. Et donc, les morts retournent au sol. Et qu'est-ce qui sort, par contre, du sol, et qui est important? Eh bien, c'est les points d'eau. Oui, qui jaillissent. Et donc, les morts peuvent revenir... à la vie, mais c'est pas tout ça, peut revenir dans le monde sous la forme, à travers les sources. Et donc, par le fait, c'est important que les filles traversent la rivière, les jambes nues, parce qu'on pense qu'au même titre qu'elles vont être fécondées ensuite, là, elles reçoivent les âmes des morts. Donc vous voyez, c'est une conception de la vie qui n'est pas du tout, en quelque sorte, celle que nous avons, nous. C'est une sorte de... Dans le taoïsme, on emploie souvent le mot de maillage. À travers les grandes mailles du filet, rien ne peut échapper du ciel. Les grandes mailles du filet du ciel. Mais donc, pour ces gens-là, il y a vraiment une sorte de maillage du monde. C'est-à-dire que la lecture du monde se fait au travers de plein de concepts. Mais ce n'est pas des concepts philosophiques, vous voyez ce que je veux dire, c'est des paysans, etc. C'est de plein de choses comme ça qui ont leur nature propre en quelque sorte, et où il faut suivre cette nature propre. D'ailleurs, je vous fais remarquer en fait un instant, c'est que ça, par la suite, devient à peu près le symbole du Tao, hein, cette représentation. Que vous avez le truc qui passe comme ça, qui a une forme un peu comme ça, que vous avez oublié. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup, souvent qu'on en parle ici, on parle de symbolique. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a une symbolique de la rivière, il y a une symbolique du versant ombragé, il y a une symbolique. Pour nous, c'est une symbolique. Pour eux, c'est pas une symbolique, pour eux, c'est l'arrêté du monde. Pour eux, c'est l'arrêté du monde, c'est pas que l'eau, c'est le symbole des âmes des morts, non. Les âmes des morts sont bel et bien charriées dans l'eau, oui. Ah non, pas du tout, hein. Pas du tout. Le clergé viendra bien longtemps après. Il y avait déjà, à l'époque, des sortes de chamans, où il y avait une certaine culture de différentes formes de transe qui existaient. Mais ce n'était pas un clergé comme on l'entend nous maintenant. Par contre, de nombreux siècles après, il y aura un clergé taoïste. Et confucéen, hein, et bouddhiste, etc. Et donc, ici, le... Et même le... la personne dans le clan, dans chacun des clans, la personne la plus élevée, donc qui préside un peu aux destinées du village, est un homme. Souvent, c'est l'homme, comment dirais-je, pas forcément le plus âgé. Enfin, en général, c'est un homme qui a déjà son âge, mais donc c'est quelqu'un qui a des liens de parenté spécifiques avec chacune des personnes qui composent le clan. Et donc, ce que je vous disais, c'est que souvent, nous, ici, pour parler de ce genre de choses, on parle de symbolisme. C'est-à-dire qu'on dit ceci, symbolique cela. Moi, je ne pense pas pour nous, oui. Pour eux, non. C'est-à-dire pour les gens qui vivaient ça, c'est pas un symbolisme. Oui, c'est la réalité du monde. Et ils verraient la manière dont nous, nous vivons et quelles sont les choses, je prends la science, ou je prends cela. Pour eux, c'est vraiment du symbolisme, un truc pareil. Hein. C'est-à-dire qu'ils diraient, bon, il y a des gens qui pensent qu'ils sont mieux parce qu'ils croient en la science et qu'ils vont voir un médecin. C'est un ensemble de preuves qui font qu'ils sont mieux. Donc je ne veux pas dire par là que, quelle vérité que ce soit, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que même les hommes de toutes les époques, même qui avaient des mœurs extrêmement différentes et des concepts très différents de ceux que sont les nôtres, avaient une vision du monde aussi savante et aussi complète que la nôtre. Et qu'au même titre que nous, nous dirions, oui, bah, attendez, tout ça c'est un ramassis de légendes ou je ne sais pas quoi, eux ils diraient exactement la même chose, parce qu'ils verraient immédiatement dans notre système à nous, ce qui ne marche pas. Ils disent, non, attendez, ils font ça comme ça, alors ils n'ont rien compris. Au même titre que nous, on dit, oui, mais là, c'est pas possible, puis pourquoi on sait parler à des filles, qu'est-ce que c'est cette histoire, etc. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, c'est vraiment ces deux civilisations différentes, mais ces hommes-là valaient tout à fait, même intellectuellement, que ce soit les hommes actuels.
En gros, j'ai acheté les poches.
Ben ça, on ne sait pas, parce que là c'est des choses antéhistoriques, je ne sais pas, moi je dirais, vraiment plusieurs milliers ou peut-être 10 000 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Hein.
Alors comment on a eu des traces de ça, et des écritures au maximum de 4 000 ans?
Oui, alors les premières traces qu'on a en fait, c'est le, mais on en a beaucoup, ce sont les récits des poèmes qui sont échangés. Parce qu'il y a un moment donné où ces poèmes, bien avant l'écriture, c'est une tradition orale, se sont codifiés. Au moins pour les poèmes les plus, peut-être les plus jolis, ou ceux qui... Et souvent, ils sont devenus une sorte de chanson. Et donc, c'est à travers ça. Et finalement, pour nous, c'était une très grande chance que finalement, au début, où il y a eu vraiment une pensée savante en Chine, c'est-à-dire à peu près à l'époque de Confucius, que ces gens-là ont eu un tel amour du passé. Et donc, Confucius, dont on a volontiers dit que c'était une sorte d'utopiste du passé, c'est-à-dire qu'il projetait dans le passé peut-être des choses qui n'avaient pas toujours existé, a été l'un de ceux qui a le plus prôné une étude très très forte de ce genre de vieux textes de poèmes. Et il en a fait, théoriquement, il en aurait même fait lui-même une compilation. Mais si ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est quelqu'un d'autre, mais à peu près à la même époque. Et donc, dans les textes qu'il recommande à ses disciples de lire, il y a en premier ce texte-là. Et donc, finalement, il y avait, c'est presque un travail d'ethnographie, si vous voulez, mais simplement, de par ce qu'on savait qui était contenu dans ces poèmes, donc que s'envoyaient les filles et les garçons, il y a énormément de détails très très précis de leur vie. Parce que ce n'était pas des poètes professionnels, et donc ils parlaient de ce qu'était leur vie, de ce que... de ce qu'ils attendaient, etc. Moi je pense que, si vous voulez, enfin, ça c'est purement personnel, mais je suppose que peut-être qu'au début de l'humanité, même dans des régions comme les nôtres, il y avait des choses relativement similaires. Parce que ces personnes-là étaient dans un mode de vie avec la nature et d'observation de la nature. Ils avaient compris, par exemple, que les bêtes ne s'accouplent pas à n'importe quel moment. Sauf quand quelque chose va mal, ou quand quelque chose ne tourne plus rond. Donc il y a des périodes d'accouplement. Il y a des périodes de semailles, il y a des périodes de deuil, il y a des périodes etc. Et donc ils avaient compris, en quelque sorte, qu'il faut que l'alternance se fasse. Et en fait, ce sont les notions qui sont contenues dans ces premiers modes de vie agraires, qui vont former d'une certaine manière la base du taoïsme, même le taoïsme, je dirais, philosophique et développé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette représentation du monde, tout est lié. Tout est lié. L'homme n'a pas une place spécifique. Alors bien sûr, il y a des... comment dirais-je, des coutumes, des choses comme ça qui sont propres à la société humaine, mais quand ils regardent la société des bêtes, ils trouvent également d'autres coutumes qui leur semblent tout aussi justes. Donc, tout est lié, tout est en mouvement, et il faut que l'alternance se fasse, au même titre qu'il y a l'alternance des saisons, qu'il y a l'alternance de la moisson et de la semaille, qu'il y a l'alternance. Donc on voit bien, par exemple, les hommes étaient au travail en été, enfin du printemps, on pourrait dire presque jusqu'à une bonne partie de l'automne, et ensuite de quoi, ils rentraient à la maison. Et à ce moment-là, c'était les femmes qui commençaient davantage à travailler, mais à la maison. Chacun avait un lieu de travail qui était spécifique. Et tout ça, si vous voulez, va marquer complètement la pensée taoïste, on pourrait dire pré-philosophique. D'accord ? Donc j'ai voulu faire ce détour, c'est une forme de détour, hein, parce que même s'il a pris un petit peu de temps, parce que je pense que si on ne sait pas ça, à mon avis, on ne peut pas appréhender la suite, c'est-à-dire le taoïsme philosophique. Parce que il y a quand même pas mal de bouquins qui sont sortis sur le taoïsme, et finalement, les gens, ils essaient de pêcher quelques principes qui leur semblent les plus maniables. Alors ils vous ressortent le yin, le yang, le tao, le truc, le machin, et puis finalement, avec tout ça, on essaye de faire quelque chose. Mais je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quand même une doctrine qui est très éloignée de nous, et dont le référent pour les personnes qui ont vécu ça, et puis par la suite par ceux qui en ont fait une sorte de pensée, sont des référents qui sont complètement différents des nôtres. Et ça, si vous voulez, c'est un problème qu'on n'a pas eu, qu'on a étudié ensemble le confucianisme, parce que là, finalement, on est dans un monde de référents, même si ce n'était pas les nôtres, mais qui étaient des référents qui nous semblaient beaucoup plus humains, civilisés, parce que déjà, le confucianisme, c'est le monde des villes. Et nous sommes nous-mêmes des gens qui venons du monde des villes, même si on était paysans en France. Pour l'époque, c'est le monde des villes, hein, la campagne française. Alors, maintenant, je voudrais aborder le début du taoïsme et les premiers noms, et voir un peu les premiers concepts, sachant que ce qui est vraiment plus de l'ordre philosophique, nous verrons davantage lors de l'étude des textes, qui se fera la fois prochaine, hein, dans 2 semaines. Alors, il y a un personnage qui est fondamental, qui a été à l'origine du taoïsme. Je pense que vous en avez entendu parler, c'est un certain Lao Tzu, qui s'écrit également dans l'ancienne graphie Lao Tzu. Alors, on dit Lao Tzu, hein, quand même. Et chez moi, c'est écrit comme ça. Alors, Zhu, ça veut dire l'enfant, mais à l'époque, c'était également une manière dont on disait monsieur ou maître. Par exemple, on avait vu la fois dernière que Confucius s'appelait Kong Zhu ou Kong Fu Zhu. Et donc le Zhu, c'est le même caractère qui signifie aujourd'hui l'enfant, qui signifiait également à l'époque, mais qui signifiait également monsieur. Lao, ça veut dire vieux, vieille. Ouais. Alors, si vous voulez, mais en même temps, c'est un nom chinois qui est tout à fait normal. Donc pour les Chinois, Lao Fu, c'est monsieur Lao. Et ça fait partie, il n'y a pas énormément de noms, enfin il y a un certain nombre de noms un peu originaux en chinois, mais on dit, il y a une expression qui s'appelle les 100 noms. C'est que pour toute la Chine, avec juste 100 noms propres, donc vous pouvez faire pratiquement tout le monde, sauf des gens qui ont un nom un peu original, mais qui sont très très rares. Et Lao fait partie de ces 100 noms. Donc c'était monsieur Lao. Je vais vous montrer, il y a un truc qui s'est... Je vais vous montrer le personnage en question. Je vais éteindre. Alors voici une représentation. On voit là. Hein. Alors voici une représentation, je dirais, tout à fait normale, traditionnelle, ancienne, de Lao Tzu. On voit le personnage, alors il est très souvent représenté sur un buffle.
Et donc là, on voit le personnage sur un buffle. On voit son apparence de vieux sage chinois. En fait, si vous voulez, on n'a aucun détail sur le personnage. On parlait tout à l'heure, on ne sait pas s'il existait. Donc, contrairement à Confucius, où il avait quand même quelques détails, comme le fait qu'il avait un fond bosselé, des choses comme ça. Bon, ben là, on lui a mis le, comment dirais-je, les signes qui font de lui un vieux sage, en quelque sorte. Pour avoir une autre idée. Voici également le... Ça, c'est dans un temple. Hein. Je crois que c'est en Fujian, en Chine. Et donc, là, il y a une partie de la colline qui est sculptée et qui vous fait, dans un temple taoïste, et qui vous fait une statue de Lao Tzu. Et puis, on voit l'espèce de... Donc, c'est une statue de grande taille. Et on voit l'escalier qui monte. Alors... Je crois que c'est dans le Fujian, ça, si mes souvenirs sont justes. Remarquez l'aspect souvent volontiers caricatural, un peu, que les Chinois donnent à leur, je crois que vous appelez ça, à leur prophète, à leur messie, à leur sage. Hein. Ici, donc, là aussi, on voit qu'on est complètement dans une autre représentation. C'est-à-dire que ce genre de personnages comme Lao Tzu ou Confucius, quand vous voyez les représentations, ce sont des gens qui ont un aspect presque caricatural. C'est un peu tout dans une représentation christique, où la personne serait comme une sorte de modèle de beauté humain, bon, ou alors c'est pas des goûts, mais donc là c'est l'aspect, par exemple, que peut avoir ce personnage. Je vous en montre une dernière avant d'allumer la lumière.
Je vois que ce fait que ce soit caricatural, est-ce que c'est lié à l'ironie, au fait de l'ironie dont vous parlez tout à l'heure avec le paysan?
Oui, je crois aussi que le... C'est effectivement, je pense qu'il y a cette ironie, ce sont des gens qui sont en dehors de l'apparence. Et par exemple, il y a un passage de Confucius où il dit, enfin, je ne me rappelle exactement, mais il dit souvent beau sourire et beau minois, enfin ne sont beaux que dans l'instant et puis finalement après ça se passe différemment. Et donc ce sont des personnes qui, d'une part, qui ont peu, qui n'essaient pas de briller. Et souvent, en plus, les taoïstes étaient souvent d'un aspect volontiers négligé. Et ça aussi, ça je fais le choix de tout, c'est dans un autre temple, en tous les cas, dans le jardin de temple. On voit souvent la posture également qui est donnée. On lui donne, alors là, c'est peut-être pas très visible, mais bon, on tient un peu une posture où il tient un peu ramassé comme un petit enfant, comme un bébé. Parce que c'est l'un des paradoxes. Du taoïsme, où il dit ce qui est dur casse et ce qui est mou résiste. Et donc il compare un corps qui devient vieux et dur au corps de tout petit enfant qui finalement est assez mou, assez comme ça. Et donc on lui donne aussi volontiers des épaules un peu comme ça. Alors, on va revenir sur ce personnage assez énigmatique de Lao Tzu. En fait, c'est quelqu'un que l'on situe maintenant. Alors, attends, quand je dis quelqu'un qu'on situe, au cas où il aurait existé, je précise, hein, parce que s'il n'a pas existé, il est plus difficile à situer, d'accord? Parce que vraiment, on n'a aucune trace historique de ce personnage, mais vraiment aucune. Non. Non. Je vais y revenir. Mais donc, si vous voulez, on use d'une facilité que je garderai jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on pense que le gars qui a écrit le livre justement auquel vous faites allusion, le livre de la voix et de la vertu, s'appelait Lao Tzu. Parce qu'il y a un livre qui existe. Il n'y a pas d'auteur, mais il y a un livre. Et donc, que je dise il s'appelle Lao Tzu ou il s'appelle autrement, j'ai mis un nom sur la chose. Alors, après, on va voir pourquoi on en arrive à ce nom-là aussi. Alors maintenant, c'est vrai que le livre en question, en Chine, on en dit parfois du bien, parfois du mal, enfin, c'est pas un peu l'étonnant des écoles, mais il y a au moins une chose qui est certaine, c'est que dans la plupart de ces passages, il semble être écrit par un écrivain unique. C'est-à-dire qu'il y a un style de la pensée, il y a un style de l'écriture, extrêmement poétique, très belle d'ailleurs, hein,
qui transparaît et qui serait liée à une main unique. On le situe vers la fin du 6e siècle avant notre ère ou au 5e siècle. Donc c'est quelqu'un qui serait d'une génération un peu plus jeune que Confucius, pour avoir une idée. Alors que dans le temps, on l'estimait plus ancien, un peu plus vieux que Confucius. Mais enfin, ça, je pense que le fait qu'on l'estimait vieux, c'est aussi le fait que le premier idéogramme de son nom signifie vieux. Hein, donc, oui. 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 Moi, je pense que la raison, c'est effectivement ça. Je pense que une autre raison, c'est que finalement le souci que nous avons de datation n'était pas partagé par les Chinois, mettons, je ne sais pas moi, à l'époque des Han ou quoi que ce soit comme ça, c'est-à-dire qui arrivent 4-5 siècles après les événements dont on parle, et qui, eux, finalement, ils n'ont pas le même souci historique. Leur but est davantage de présenter l'histoire, donc le premier grand historien, un certain Sima Qian, donc le but est de présenter l'histoire sous une forme, oui, intéressante, logique, etc. Et donc, par exemple, ce Sima Qian, donc fin d'épisode, où Confucius aurait rencontré un sage qui était un ancien archiviste qui s'était retiré et que cette personne s'appelait, je crois, dans son matière, il s'appelle Lao Tan. Donc Tan, c'est le prénom, et Lao, enfin, le prénom, c'est pas le cas, mais enfin, donc c'est le nom personnel, et Lao, c'est le nom. Et en fait, on a le principal livre du taoïsme philosophique s'appelle le Zhuangzi. Il est écrit, là, par contre, par quelqu'un qui a existé, et qui s'appelait Zhuangzi. Et en fait, dans le Zhuangzi, il y a plusieurs anecdotes qui sont consacrées à... Mais donc le Zhuangzi, lui, c'est 4e siècle, hein, donc ça arrive quand même un ou deux siècles après ce qu'on dit. Donc vous voyez, quand même, 200 ans, à une époque où il y a peu d'écrits, tout, il se passe des choses en 200 ans. Et donc, dans le Zhuangzi, donc, il y a un personnage qui apparaît à plusieurs endroits et, comment dirais-je, qui apparaît vivre les valeurs du système de Zhuangzi, et ce personnage s'appelle Laozi, justement. Et c'est pour ça que dans les mémoires historiques, donc encore plusieurs siècles après, donc vous voyez là, au fur et à mesure, on saute des siècles, et ce n'est pas un travail historique, c'est un travail qui est purement littéraire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans un bouquin qui a écrit ça, et trois siècles après, il y en a un autre qui le reprend comme étant du réel. C'est comme si un livre, un roman qui est écrit maintenant... Alors, ok, dans le roman qui est écrit maintenant, si ça se passe dans une société, il y a des choses qui sont effectivement liées à cette société qui sont dites, mais si on prenait un personnage du roman et qu'on en fasse dans deux siècles un personnage historique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, dans le Zhuangzi, il y a un personnage qui s'appelle Lao Tzu et qui incarne complètement les vertus de la méditation taoïste. Je me souviens notamment d'un passage du Zhuangzi où donc on a conseillé à Confucius d'aller voir ce personnage, et donc il arrive chez lui, et là il voit le gars qui est dans la cour de sa maison, en plein soleil, et qui est en train de se faire sécher les cheveux. Il vient de se laver les cheveux, donc les hommes portaient les cheveux très longs à l'époque, et il se faisait une sorte de je sais pas qu'on peut dire, de queue de cheval ou de chignon qui remontait sur le dessus de la tête. Et on avait même un petit chapeau qui allait directement par-dessus cette chose-là. Et donc là, à l'inverse, Confucius voit ce maître qui est chez lui et qui a les cheveux entièrement dénués sur les épaules, un vieil homme, et qui est en train de sécher ses cheveux au soleil. Et quand il regarde la manière dont est cet homme, il éprouve une sorte de peur. Pas une peur panique ou quoi que ce soit, mais Confucius, qui est un homme qui a quand même une très grande appréhension de l'humain et de ce qui se passe dans les hommes, il se rend compte que face à, d'après hein, le Zhuangzi, hein, je ne sais pas si c'est jamais arrivé en réalité, cette chose-là, il a l'impression que cet homme est comme un mort. Et cet homme qui ne bouge pas, qui est au soleil, et pourtant il a vu d'autres, hein, théoriquement, hein, Confucius, hein, c'est pas le premier venu, et il éprouve une sorte de crainte. Et puis finalement, il décide quand même de se manifester auprès de l'homme en question, Et là, l'autre va lui dire en quelque sorte qu'il n'a rien compris, quoi. Enfin bon, il ne le dit pas d'une manière aussi simple. Et Confucius va revenir chez lui extrêmement troublé. Donc, on se demande si ce n'est pas en référence à ce personnage littéraire qui a été créé, qui s'appelait Lao Tzu justement, enfin Lao Tan en l'occurrence, qui a été créé le personnage de Lao Tzu, et qu'on s'est dit, du coup, on avait un bouquin anonyme dans lequel il y a toute la sagesse, le début de la sagesse du taoïsme, et donc, autant le mettre sous l'étiquette, sous le nom d'auteur de ce personnage dont on ne sait rien, donc vous voyez un peu, c'est une démarche quand même au quatrième niveau, hein. D'autant qu'à l'époque où on attribuait ce livre à Lao Tzu, le débat faisait rage entre les confucianistes et les taoïstes. Et donc, donner comme origine à ce livre le nom d'une personne devant laquelle en fait, Confucius aurait été défait, mais sans parole même, simplement en voyant le gars qui est en train de se faire sécher les cheveux, donc c'était marqué un point certain. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Tout à fait. Ben ça, on le voit aussi dans l'extrait que j'ai lu au début, et qui pourtant, lui, vient des entretiens de Confucius, où d'entrée de jeu, ça va mal. Hein, parce que le disciple de Confucius demande le chemin pour trouver le gué pour passer la rivière, l'autre, il lui dit, plutôt que vous êtes en train de suivre un homme qui ne sait même pas où il va. Ah, et donc, et en plus, il ne répond pas à sa question, donc les autres, ils ont continué à errer, là, pour trouver le gué. Et donc, dans ce chapitre des entretiens de Confucius, on le voit rencontrer plusieurs sages comme ça, et qui, en plus, à chaque fois, ont eu des propos un peu stupéfiants, mais enfin, ils ne servent à rien. Et la réflexion de Confucius, lui, il dit, mais moi, de toute façon, je suis désolé, je suis un humain. Moi, je ne peux pas vivre, comme il le dit, avec les bêtes et avec les oiseaux. Donc, peut-être que tous les hommes ont tort, mais moi, je suis un humain. Et donc, si je ne suis pas là pour amender les hommes, qui le fera? Et donc, lui, il est complètement dans une démarche qui est autre. Alors que eux, au contraire, bon, ils disent qu'à chaque fois que les hommes font quelque chose, c'est le drame total, il vaut mieux se retirer. Donc, on voit qu'on a affaire à deux pensées qui sont complètement différentes. Alors, pour revenir sur le livre de la voie et de la vertu, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. C'est un livre, enfin bon, qui est trouvable. Il y a différentes traductions qui existent en français. Théoriquement, il paraît qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle traduction qui sort, les sinologues doivent dire oh là là, encore une. Malheureusement, je pense qu'il n'a jamais, c'est presque à mon avis impossible à bien traduire. Enfin, je ne sais même pas ce que voudrait dire bien traduire dans ce cas-là. Donc, il y a différentes sortes de traductions qui existent. Parce qu'effectivement, on a affaire à des textes très anciens, dont il nous manque les référents. C'est sûr qu'il y a une expression dans ces textes qui est poétique, qui est belle, qui touche. Ces textes assez, parfois assez abscons, hein. Je vais vous en lire juste un qui fait 4-5 vers, enfin un peu plus, hein. Et vous allez voir ce que c'est comme genre de texte, hein. C'est pas du tout venant, c'est pas de la gnognotte, hein. Écoutez ça. L'esprit du Val ne meurt point, c'est le mystérieux féminin. L'huis du mystérieux féminin est racine de ciel et terre, traînant comme un filandre à peine s'il existe, mais l'on y puisera sans jamais qu'il s'épuise. Donc vous voyez là, bon, la fois prochaine on verra ce texte-là en détail, mais chaque ligne, c'est le numéro 6. Chaque ligne comporte une forme pour nous de rébus, hein, pas forcément pour les gens qui le lisaient. L'esprit du Val, qu'est-ce que c'est que l'esprit du Val? Vous voyez, donc ça commence déjà, c'est le mystérieux féminin. Qu'est-ce que c'est que le mystérieux féminin? L'huis, c'est-à-dire la porte du mystérieux féminin, qu'est-ce que c'est? Et racine de ciel et terre, qu'est-ce que c'est que... Vous voyez, donc c'est des textes qui ont eu beaucoup d'interprétations très différentes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les milieux qui étaient les taoïstes étaient des milieux de gens un petit peu en dehors de la société. Il fallait voir qu'en général, il y avait, mettons, un vague maître taoïste, ou bien à la campagne, ou bien dans un faubourg un peu pauvre, un peu reculé d'une ville ancienne en Chine. Ce gars-là avait deux, trois personnes qui venaient le voir extrêmement régulièrement, qui discutait avec lui, à qui il donnait différents exercices à faire, ça pouvait être des exercices de respiration, différentes choses comme ça, et ces gens-là avaient une sorte d'expérience commune. Et donc, il y avait peu de livres, très très peu de livres, et donc c'était surtout une manière de, comment on peut dire, d'entretenir son corps, de vivre. C'était des sortes de... C'était pas quelque chose de purement philosophique, loin de ça, loin de là. Alors, pour revenir donc le livre de la voie et de la vertu, alors selon la légende, Lao Tzu aurait été un archiviste. Alors, je pense que peut-être que le personnage a vraiment existé, peut-être qu'il a été vraiment archiviste. Je pense que c'est possible aussi qu'on en ait fait un archiviste, parce que beaucoup des premiers taoïstes, du taoïsme philosophique, donc là on est à peu près 5 siècles, 4 siècles avant Jésus-Christ, sont des gens qui sont des archivistes. Alors, la raison est la suivante, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, il y a très peu d'écrits. Il y a quelques classiques, par exemple on a parlé tout à l'heure du classique des Odes, le livre des Odes, le livre des poèmes. Il y en a un autre sur la musique, il y en a un autre sur le I Ching, il y en a quelques-uns, mais il y a très peu de choses. Même au début, les entretiens de Confucius ont mis longtemps à être compilés. Donc, il y a très peu d'écrits. Mais, dans les différentes petites royautés qui existaient, on est à l'époque des royaumes combattants, il y avait, au palais central, une salle des archives, avec l'ensemble des textes de ce qui formait le savoir de l'humanité, d'alors, hein, dans cette principauté. Et la personne qui devait les recopier, qui devait les étudier, était l'archiviste. Parmi ces textes, il y avait un certain nombre de textes, je dirais, plus ou moins ésotériques, ou plus ou moins liés à la magie, ou à des choses comme ça, des suites de symboles, des suites de nombres. Et... Donc, le taoïsme s'est répandu volontiers au début dans ce milieu des archivistes, parce que c'était des personnes qui avaient quelques livres sous la main, des livres souvent très anciens, même auxquels je ne sais pas ce qu'on y comprenait, hein, et donc ils pouvaient avoir quand même des références littéraires. Et donc, par le fait, ils se dégageaient de la plupart des philosophes de l'époque, des gens un peu comme Confucius ou comme Lao Tzu, des gens comme ça, qui, eux, en quelque sorte, avaient lu quelques classiques, et à part ça, à partir de là, faisaient une sorte de philosophie personnelle. Alors que les taoïstes avaient, eux, en plus, on voit dans leur littérature, toutes sortes de légendes, de vieilles croyances qui réapparaissaient. Et ce qui les lie également davantage avec le monde des campagnes, par le fait. Alors, d'après la légende, il aurait démissionné de son poste pour se retirer dans un lieu inaccessible. À la frontière du pays, quand il passe la frontière, le soldat, enfin le capitaine, qui est là, lui dit qu'on passe pas. Donc il faut imaginer Lao Tzu qui arrive sur son buff. C'est dommage, j'avais une bande dessinée où on voit ça, mais on voit rien en fait. Hein. La reproduction est de mauvaise qualité. Mais je sais pas si on le voit. Ouais, bon, c'est pas très parlant, donc je vais essayer de vous le montrer. Tout à l'heure, on avait pensé effectivement à le redessiner sur le tableau, mais ils n'auraient pas été contents. Mais enfin bon, là on le voit qui arrive sur son buff, et ça c'est le garde, quoi. Et bon, je ne vais pas vous le montrer davantage, je vais rallumer. Mais donc, d'après la légende, le garde ne voulait pas qu'il passe, et lui aurait proposé de lui donner quelque chose en échange. Et le garde aurait accepté, et ce qu'il avait donné en échange, il aurait écrit sur le champ le Tao Te Ching, comme ça, boum, d'un trait. Le texte est assez mince, hein, c'est 81 petits extraits. Hein. Et il l'aurait remis au garde, et l'autre serait resté en émerveillé de voir cette chose, et donc Lao Tzu serait passé, et après on n'aurait plus jamais entendu parler de lui. Quoi qu'il en soit, il y a, je ne m'appesantirai pas davantage sur les différentes légendes qui sont liées au personnage, parce que tout ça est extrêmement hypothétique, mais effectivement ce qui reste c'est le livre. Et donc ce livre qui est constitué de 80 courts textes, dans une forme qui est plus ou moins versifiée, souvent une compréhension assez difficile de ce texte, mais une très très grande beauté de l'expression. En fait, tout, et son contraire même, a déjà été dit sur ce texte. Moi, je vous conseille vivement de le lire. La fois prochaine, de toute façon, on aura un atelier de lecture où il y a de nombreux passages qui seront commentés. On dit que les 5000 commentaires qui ont été écrits dessus n'arrivent pas à épuiser les 5000 mots qu'il contient. Comme tous les textes de cette époque, ça, j'en ai déjà un peu parlé quand on avait vu le texte de Confucius, ces choses qui sont écrites sur des, je ne sais pas si vous avez vu déjà des musées, sur des minces tiges de bambou.
Alors c'est écrit, c'est gravé avec une pointe. Donc en fait, ça se présente comme ça. Vous avez des tiges de bambou assez fines, comme ça. Et il y a une forme d'attache. D'accord. Et donc, c'est un peu comme un sort. Vous voyez, puis au fur et à mesure, vous avez des attaches comme ça, puis il y a tout le truc qui se déroule comme ça. Et au début, donc, la personne, elle a juste une tige de bambou, et elle écrit des caractères comme ça. D'accord. Et ensuite de quoi, on relie, en fait, ça c'est le terme, ça dit, on relie ça par justement des attaches. Comme ça. Et donc, c'est tout le truc qui se déplie comme ça, comme un sort. Et donc, les ennemis du taoïsme disaient volontiers que c'était vraiment des choses extrêmement anciennes et respectables, à tel point d'ailleurs que les agrafes avaient dû céder et qu'à la fin on avait recomposé comme on avait pu. Alors, je pense pas que ce soit, personnellement, je pense pas du tout que ce soit vrai, mais c'est vrai que souvent, il y a comme dans les textes des choses un peu étonnantes, moi je trouve. Et souvent, on a l'impression qu'il y a 5-6 vers qui ont une continuité, et d'un coup, il y en a vraiment 2 ou 3 qui semblent venir de tout à fait ailleurs.
C'est la même chose avec les sourates du Coran. Oui. C'est simplement des bouts de phrases qui étaient dans la malle de Mahomet, et après on les a remis, on a essayé de les remettre un petit peu d'une manière cohérente, mais de toute façon, c'était totalement... c'est pas...
Oui. Donc, mais enfin, là, ce que je pense, c'est qu'il y a peu d'exemples où comme ça, et puis et c'est peut-être une compréhension à nous qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi telle partie du texte est rattachée à telle autre. Et mais enfin, le livre de la voie et de la vertu en question donc fait partie des grands textes fondateurs vraiment de l'humanité et sans doute un ouvrage d'une sagesse qui est énorme. Je ne m'appesantis pas, si vous voulez, sur certains concepts qu'on verra beaucoup plus en détail la fois prochaine, lorsque nous étudierons vraiment les passages, certains passages choisis de ce livre. Ce que je voudrais, vu qu'on a un peu de temps, c'est aborder l'autre livre essentiel du taoïsme, et peut-être qui nous est plus facile à appréhender, qui s'appelle le Zhuangzi. Alors là, nous avons affaire à un personnage sur lequel on a peu d'informations, mais qui a priori a existé, qui a vécu au IVe siècle, à l'époque des royaumes combattants. Et en fait, moi je pense que c'est lui qui est vraiment la pierre angulaire du taoïsme. Et parce qu'il y a un livre assez important, enfin important en volume, qui est de sa main, donc qui est de Zhuangzi, même s'il y a eu quelques ajouts par la suite, sans probablement, et dans lequel, en plus, ce livre se présente volontiers sous forme de dialogue, avec des personnages, bon, comme on a vu tout à l'heure, entre Confucius et Lao Tzu, entre différents personnages, ou entre Zhuangzi et ses disciples, ou entre Zhuangzi et son maître. Et là, on apprend énormément de choses sur ce taoïsme des premiers âges, et surtout, on apprend un peu quelles étaient les manières de... J'allais dire d'enseigner, mais c'est pas le mot. J'ai pas de mot, donc je suis un peu désolé. Mais c'est-à-dire l'action que certains maîtres du Tao avaient sur l'esprit de personnes qui venaient les voir et qui devenaient leurs disciples. Mais ce n'est pas un enseignement. C'est-à-dire que vraiment, il y a une manière de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce n'est pas de la manipulation mentale non plus, mais... Comment ? Oui, de penser, de faire penser, de... souvent, si vous voulez pouvoir... Si on veut... c'est pas la maïotique, parce que d'une certaine manière, la maïotique, c'est faire accoucher la personne, c'est-à-dire faire que la personne, à un moment donné, il y a quelque chose que finalement elle savait, mais qu'elle n'est pas formulé, dont elle ne s'était pas rendue compte et qui lui apparaît fait comme vrai. C'est par exemple Socrate qui fait dire un truc sur le triangle ou je sais pas quoi, un esclave qui théoriquement n'est pas un géomètre. Là, c'est différent, c'est-à-dire que par exemple, quand on voit une scène... De cette relation d'un enseignant à quelqu'un dans le taoïsme, on voit par exemple un homme d'État ou un fonctionnaire de l'époque qui arrive, qui a un gros problème. Le monsieur, il a un problème, il y a un truc qui ne peut pas se résoudre, et il va voir le maître taoïste. Et donc, il entre et il lui dit, ben voilà, il y a ça comme problème, c'est très grave. Et en fait, quand on voit... Après, de la part de l'autre personne, il y a tout un travail sur lui qui est tout à fait spécifique. Moi, je remarque que souvent, l'autre, il semble sortir d'une rêverie, il lui sourit, il le convie à s'asseoir. Il fait aussi on voit bien qu'on est avec une personne, souvent que la manière dont on respire peut influencer la manière dont l'autre personne respire. Donc, il va lui faire baisser le rythme de sa respiration. Il lui dit deux ou trois mots, et d'un coup, il fait appel à un certain nombre d'images. Souvent, ce sont des images qui incluent une forme de vertige. Il lui dit oui, mais souvent, c'est comparé à des animaux. Il n'y a aucun rapport avec ce que le gars veut nous demander. Le pauvre, il est tombé dans un mauvais coup, hein, il s'est trompé d'adresse. Et donc, il lui dit oui, c'est exactement comme, je ne sais pas, n'importe quoi, un faucon, mettons, qui fonce sur une bête, et à un moment donné, il se passe ça, il commence à lui raconter un truc tout à fait extraordinaire. Et l'autre, à un moment donné, sort, en quelque sorte, quand ça se passe bien, du problème qui était le sien. Et dans plusieurs cas, on dit que la personne, après, il est revenu davantage mieux que quand il était arrivé.
C'est une sorte de psychanalyse.
Non, mais ça fait quand même appel à l'allégorie. Oui.
Oui, oui. C'est-à-dire que nous, on mettra, si vous voulez, les mots que l'on veut, mais... Je ne sais pas si c'est une psychanalyse, parce qu'il n'y a pas chez ces gens-là d'idées d'inconscient, de trucs, de machin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il fait autre chose, mais à un moment donné, c'est des gens qui savent faire avec le mental. C'est tout ce qu'on peut leur... oui. Ou quoi que ce soit, bon, qui amène une certaine paix également. Hein. Donc, c'est le... donc, dans le Zhuangzi, on voit bien ce genre d'exemple. Et on voit bien aussi la manière, à travers des dialogues souvent imaginaires, dont il mène l'analyse. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Zhuangzi, à un moment donné, il y a le Yan Rui, le principal disciple de Confucius, qui va voir ce dernier pour lui dire, il y a, je ne sais plus quel royaume qui est juste à côté, il y a un jeune roi qui vient d'arriver au pouvoir, c'est un homme au bout du compte qui est cruel, et maintenant, bon, dans le royaume, c'est vraiment une situation terrible, il y a des morts dans les rues, etc., etc. Et donc Yan Rui dit, même si je n'ai pas beaucoup d'habilité, je pense qu'il faut que je parte là-bas, il faut que j'essaie d'avoir une influence sur ce roi, parce qu'on ne peut pas laisser ce gars-là agir comme il agit. Et bon, je ne raconte pas toute l'histoire, mais donc Confucius, mais ce n'est pas le vrai Confucius, là, c'est Zhuangzi qui parle à sa place, lui dit oui, mais au fur et à mesure, il va lui montrer à quel point cette tâche est infaisable. Il va lui dire oui, mais si tu arrives... et que tu lui tiens un discours sur les qualités morales et tout, ok, ça fera peut-être ressortir tes excellentes qualités morales à toi, mais ça prouvera davantage à quel point cet homme est un homme dépravé, et ça lui fera pas forcément plaisir, il te mettra à mort. Ou alors il lui dit, oui, mais au mieux tu vas devenir un des courtisans comme il y a là-bas. Enfin, au fur et à mesure, il lui dit toutes les choses qui vont faire que cette chose ne peut pas se passer. Et Yan Rui lui dit qu'il veut quand même partir, et il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et Confucius lui dit, eh bien, il y a une seule chose à faire, il lui dit, c'est le jeûne de l'esprit. Le jeûne, c'est dans le sens de jeûner. Et il dit, parce que tu fais, mais alors, quand il lui dit ça en plus, et c'est souvent le cas de ce dialogue, il y a beaucoup d'humour. Parce qu'il y a une voix qui est un homme très pauvre, et il dit, non, mais vous ne croyez pas que j'ai assez jeûné, moi, dans ma vie. Et l'autre lui répond, il ne faut pas que tu entendes. Quand tu seras là-bas, tu n'entendras pas avec tes oreilles, tu entendras avec ton esprit. Tu fermeras tes oreilles, tu entendras avec ton esprit. Et puis, tu n'entendras pas avec ton esprit, tu entendras avec ton énergie. Quand tu entendras avec ton énergie, il dit, tu seras devant une sorte de grande béance. Et là, c'est là où tout se passe avant que ça se passe. Donc vous voyez le genre de dialogue que nous avons dans ce genre de livre. Bon, là je l'évoque en deux secondes, mais c'est quelque chose quand on le regarde bien, et toutes ces séries, tout ce dialogue, et qu'on voit les réparties et la manière dont la chose progresse, on est à un niveau de sagesse et d'intelligence extrême pour l'humanité. Parce qu'on n'est pas du tout dans l'idéalisme, c'est pas l'autre qui veut y aller au début. C'est une démarche qui est relativement idéaliste, cette personne qui veut aller à la cour du tyran. Mais ensuite, on en sort complètement. Et au fur et à mesure de ce dialogue, on voit une chose qui est étonnante, c'est que le confucianisme s'est basé sur la notion de pouvoir. Il peut y avoir un pouvoir éclairé ou un pouvoir dépravé. Et donc le but du sage est de faire qu'un pouvoir devienne un pouvoir éclairé, en quelque sorte. Dans le taoïsme, vraiment, on va à un autre niveau. C'est-à-dire que dans le dialogue que j'évoque, je ne vois plus exactement les arguments, mais à un moment donné, il y a l'un des deux protagonistes, parce qu'à un moment donné, il change presque de rôle là, vis-à-vis de l'autre, le maître devient le disciple et inversement, et il y a l'un des deux protagonistes qui fait comprendre que dans ce phénomène du pouvoir, il y a quelque chose qui est étrange. C'est-à-dire que pour que le phénomène du pouvoir, tel que celui que ce tyran exerce sur son peuple, au mieux, on va le changer à la place d'un tyran par un roi éclairé, mais il y aura toujours le phénomène du pouvoir. Mais c'est parce que ce phénomène du pouvoir existe déjà dans la personne. Dans Yen Roy, par exemple, qui veut partir, ou dans les gens qui forment le peuple de ce pays. Et donc, c'est parce qu'il y a déjà une sorte de dichotomie dans l'esprit qui fait qu'on veut exercer un pouvoir sur le monde, on veut exercer un pouvoir sur les hommes. Alors le pouvoir existe, et à partir de là, les choses vont bien ou vont mal, mais au bout du compte, elles ne vont pas si bien que ça. Et ce que conseille Zhuangzi dans cette affaire de ce qu'on appelle le jeûne du cœur, c'est-à-dire d'arriver à extirper de soi-même cette notion du pouvoir. C'est-à-dire ne plus être dans un rapport dualiste, mais le terme n'est pas très, très juste, ne plus penser « il y a moi, il y a le monde ». Vous voyez cette relation. Donc vu qu'il y a cette idée dans le tarif, c'est-à-dire que vu que je pense « il y a le moi, il y a le monde », bon ben moi je suis, hein, et qu'est-ce que je vais faire du monde? Il faut bien que j'en fasse quelque chose. Et donc il y a cette idée qu'on va se servir du monde, et donc au bout du compte, on va forcément arriver à un monde qui est un monde dégradé. Un monde consommé, un monde détritus. Parce que, d'entrée de jeu, on s'est mis dans un rapport où il n'y a pas une sorte d'entité qui est moi-monde, mais il y a une partition entre moi et entre le monde. Donc, pour reprendre un petit peu sur le personnage de Zhuangzi, il est le fondateur, donc, comme je vous l'ai dit, du taoïsme philosophique, et à mon avis, après lui, ça n'a jamais été plus haut. On pense que durant sa jeunesse, il aurait reçu une solide formation sur le rituel, qui était donc l'une des principales sciences du confucianisme, comme cela était enseigné à l'époque dans le courant confucéen. Donc c'est quelqu'un qui aurait eu dans sa jeunesse, effectivement, une très bonne connaissance, non seulement du confucianisme en tant que philosophie, mais également de l'ensemble des rites qui sont liés au deuil, qui sont liés à toutes sortes de choses, à les plats qu'on doit présenter sur la table, etc., et toutes les significations que ces choses avaient dans ce courant. C'est un conteur habile, à l'imagination féconde, une intelligence très puissante et fine, un personnage qui est à la fois astucieux et profond. Parce que c'est vrai que quand on lit le Zhuangzi, on rigole bien, hein, il y a beaucoup de passages, il y a une forme d'humour, mais qui n'est pas du tout un humour voulu, quoi. C'est-à-dire qu'il n'essayait pas de mettre les rieurs spécialement de son côté. Et ça s'applique vraiment souvent au niveau du raisonnement, aux objets les plus inattendus. Moi j'ai trouvé, on le verra peut-être la fois prochaine, mais une démonstration dans le Zhuangzi de mathématiques modernes stupéfiante. vraiment stupéfiante. Donc on a affaire là, avec Zhuangzi, on est vraiment parmi les grands génies de l'humanité. Et on verra ça la fois prochaine, je vais essayer de la mettre, cette démonstration mathématique. Donc il s'oppose au courant des lettrés confucéens, même s'il n'a rien contre Confucius, personnage, qui pour lui représente toujours peut-être pas le maître par excellence, mais plutôt le gars qui veut toujours apprendre. Finalement, c'est un peu l'impression de Confucius tel imaginaire, tel qu'il apparaît dans le Zhuangzi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui est toujours en train d'apprendre quelque chose de quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour lui, il y a une méprise fondamentale dans la conception humaine entre l'identification que le sujet a de lui-même et le reste du monde, et le reste des êtres. Et donc, dans cette identification, dans la création du sujet, il se passe donc une sorte de, est-ce qu'on pourrait appeler une sorte d'objectivation du monde. Et pour lui, c'est cette séparation qui amène à considérer le monde comme objet, à tenter de l'utiliser et donc à le dégrader. Il prône donc de s'en remettre au Tao, c'est-à-dire la voie des choses, et d'ouvrir d'autres moyens de connaissance. Ce que je dis tout à l'heure, n'écoute pas avec tes oreilles, écoute avec ton esprit, n'écoute pas avec ton esprit, écoute avec ton énergie. Donc, si vous voulez, dans Zhuangzi, il y a un concept qui existait déjà dans le Tao Te Ching qui est important, c'est le concept finalement du non-agir, ce qu'on appelle en chinois Wu Wei. Et
donc ça c'est le point caractère d'un négatif qu'on appelle non. En fait, c'est au néant que le non comme non, oui, non. Et ça, c'est le verbe faire. C'est-à-dire que dans le taoïsme, il y a l'idée que, en fait, ce qui pousse l'action, c'est qu'on a une sorte de volonté d'agir, de changer l'ordre du monde, et qu'on n'est pas simplement capable de laisser faire. Toujours pour les taoïstes, ce qui est important, c'est la position centrale où il n'y a pas de mouvement. C'est souvent comparé par eux au centre de, l'essieu de la roue, et ensuite vous avez toute la roue qui tourne autour de cette chose. Cette chose, elle est immobile. Mais c'est parce qu'elle est immobile que si la roue tourne, il y a mouvement. On abordera peut-être davantage les concepts qu'il y a dans le Zhuangzi, mais pour lui, il y a une sorte d'activité humaine qui est le propre de l'activité humaine, qui est quelque chose qui est puéril. C'est-à-dire que l'homme est toujours en réaction à autre chose. Il y a quelque chose qui le touche, qui l'ennuie, etc. Il faut faire quelque chose. On fait quelque chose, on n'a pas pris connaissance de ce qui produit tout, en quelque sorte, et du coup, on accroît encore le désordre. Et au fur et à mesure, on arrive dans des situations qui sont de plus en plus inextricables. Et donc, vis-à-vis de cela, ce qu'il prône, alors c'est pas le plus facile, loin de là, c'est le non-faire, le non-agir. Il y a l'idée qu'en fait, il y a ce qu'il appelle lui un ordre céleste, l'ordre du ciel, qui est très important dans la pensée chinoise. On a vu Confucius que l'ordre céleste, le Tianming, est le mandat céleste qui est remis à celui qui doit gouverner. Enfin, mais là, on est donc tout à fait dans un autre domaine. Mais donc, pour lui, il y a une sorte d'ordre céleste qui, si on le laisse agir, fait que tout se passe pour le mieux. Et il y a, à l'inverse, l'ordre humain. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que les deux ordres sont complètement séparés parce que l'homme ne s'en remet pas à l'ordre céleste. Par exemple, il y a un passage intéressant du Zhuangzi où quand même les gens ne comprennent pas très bien ce qu'il veut dire par le mot ciel. Il dit, qu'est-ce que vous entendez, l'ordre céleste, le ciel fait quoi? Alors, on comprend bien que c'est le ciel réel, mais quel est l'ordre qu'il y a dans le ciel et qui immane sur la terre? Il s'exprime très simplement et dit, les chevaux et les buffles ont quatre pattes. C'est ce que j'appelle l'ordre céleste. Voilà ce que j'appelle le ciel.
Mettre un licou au cheval, percer le museau du buffle, voilà ce que j'appelle l'humain. D'une certaine manière, on pourrait... C'est le fait que l'homme ne se sente pas dans la nature. Ne se sente pas dans la nature, qui se croit différent de la nature, si on voulait le mettre en forme comme ça. Mais c'est pas uniquement au niveau de... Parce que la suite, veille à ce que l'humain ne détruise pas le céleste en toi. C'est-à-dire la volonté de faire les choses. Veille à ce que l'intentionnel ne détruise pas le nécessaire. C'est le... Il y a quelque chose qui va se passer d'une manière nécessaire, qui va se passer de soi-même, et qui, dès lors qu'on est en accord avec cette chose, et c'est là où on revient finalement à la religion paysanne qu'il y avait au début, c'est-à-dire que dans ce schéma-là, on pourrait dire il n'y a que du nécessaire. Il n'y a pas d'intentionnel. Le but du village, c'est pas d'avoir un village plus grand que le village d'à côté, etc. On échange la moitié des jeunes gens du village contre l'autre moitié de l'autre village. Ça se produit toujours comme ça. Il y a une sorte de rythme de la nature, de rythme des hommes, mais les deux sont pareils.
Utilise la nature, mais ne vit pas contre elle.
Oui, mais c'est même pas... Mais c'est, quand on dit utilise la nature, c'est que tu es différent de la nature. Parce que je pourrais pas dire je m'utilise moi. On dirait pauvre gars, mais donc c'est le fait que déjà nous on se place dans une perspective, donc c'est pour ça que j'aime pas trop pour la pensée chinoise, enfin du moins de cette époque-là, le terme de nature, c'est pas évident à replacer. Donc autant reprendre le vocabulaire local, parce qu'en plus il a une portée poétique, et je crois qu'il nous parle directement, c'est-à-dire qu'il y a l'ordre du ciel. Il y a ce qui est céleste et il y a ce qui est humain. Je pense que d'ailleurs dans la plupart des grandes religions, au début, il y a cette opposition céleste-humain. Et c'est nous, je pense, après, avec la philosophie des Lumières, etc., où on arrive à cette notion de nature. Mais...
Ça veut dire qu'elle est complètement différente de la nature Rousseau ici.
Oui, totalement. Donc, écoutez, voilà, j'ai évoqué un petit peu donc la riche personnalité de Zhuang Zi et également les débuts du taoïsme. Je sais pas s'il y a quelques questions rapidement, parce qu'on est arrivé pratiquement au temps qui est imparti, sans ça, oui. Donc après la période de Zhuang Zi, là en fait on a quand même pas mal décrit, il y a déjà le Zhuang Zi lui-même, il y a ce qui ne s'appelle pas encore le Tao Te Ching, mais qui quelques siècles après s'apparaît comme ça, mais le livre existe, et donc il y a une pensée taoïste qui commence à exister en tant que pensée. Le courant principal, mais pas le seul, de la pensée chinoise de l'époque, c'est le confucianisme. Mais il y a également Mao Tse, il y a également un certain nombre de gens qui s'opposent plus ou moins, il y a également des sophistes à la pensée confucianiste. Quand on va quitter, là on est à peu près au IIe siècle avant Jésus-Christ, quand on va quitter la Chine féodale pour passer à la Chine impériale, donc on va passer à un empire avec Qin Shi Huang Ti, là, le nouveau pouvoir qui va se mettre en place, va se mettre en place contre le confucianisme, parce que le but de ce nouveau pouvoir est de créer un empire comme il n'a jamais existé sur Terre. Il y aura la Grande Muraille, il y aura tout ça, etc. Et ce n'est pas de revenir comme le voulait Confucius à des sortes de rois mythiques de l'Antiquité, plein de petits rois en Chine. Et donc là, on va passer complètement à une autre dimension. Et ces gens-là vont s'appuyer en partie sur le taoïsme. D'autant que même si ce n'est pas les idéologues de ce pouvoir qui sont des taoïstes, ce sont souvent ce qu'on appelle des légistes, les disciples de quelqu'un qui s'appelait Han Fei. Mais cette personne interprète le taoïsme. Alors d'une manière qui nous semblerait très, très différente de celle dont nous la voyons nous. Et qui au fur et à mesure, par ça, il va consolider une certaine vue du taoïsme. Ensuite de quoi, quand le pouvoir impérial va rapidement décliner, on va revenir à la Chine confucéenne, mais il y aura toujours le taoïsme qui restera en Chine dans deux registres importants. Le premier, je dirais, vraiment au niveau des campagnes, où là, même il serait mélangé avec toutes sortes de cultes de dieux, de pratiques rituelles, magiques, etc. Et également au niveau des lettrés, de certains lettrés que la violence du monde dégoûte, ou qui préfèrent, qui se rendent compte qu'ils ont essayé d'être actifs dans le monde et d'infléchir la course des choses, mais n'ont pas pu le faire. Et donc, ces gens-là se tourneront volontiers vers le taoïsme.
À quelle époque on peut situer l'invention de l'écriture chinoise?
Ah, je sais pas, je peux faire des recherches si vous voulez. Je crois que les choses les plus anciennes, c'est un peu plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ, je crois.
Comme ça?
Je crois. Écoutez, je préfère vous répondre la fois prochaine.
Avant les Mésopotamiens?
Oui.
Pour moi, ce que j'en sais, c'est que la syriologie, c'est les premières écritures. Je ne connais pas le
oui.
Chinois.
Je préfère vous répondre d'une manière plus précise la fois prochaine, parce que j'ai un livre où il y a vraiment les premiers, enfin qu'on a retrouvé maintenant, parce qu'il y en a peut-être d'autres qu'on ne retrouvera jamais, parce que là on arrive quand même à des périodes assez anciennes. Et justement, il y a quelques vases funéraires qui ont été conservés ou des choses comme ça. Et chose qui est étonnante, enfin les caractères chinois ne sont pas les caractères actuels, mais c'est vraiment ce qui va donner les caractères actuels. Et finalement, déjà qu'on est à l'époque de ce qui nous intéresse, là des gens comme justement Zhuang Zhu, ou même quelques siècles avant, ça y est, le chinois existe. Hein. C'est le chinois, c'est le chinois qu'on a maintenant, pas tout à fait, pas la langue parlée, mais le chinois classique est presque le même chinois que maintenant.
Ça, c'est 5-6 siècles avant.
Oui, oui. Mais je vous répondrai de manière précise. Hein. Comment ?
Entre ça et 10 000 ans, c'est une
heure. Ouais, mais je crois que ça ne veut pas 10 000 ans. Hein. Je vous répondrai. Hein. Parce que je sais que déjà, on a des choses, c'est à peu près 3 000 ans, on a des choses qui sont vraiment du chinois, enfin, je ne vais pas dire normal, mais presque. Oui.
Quelle était la position de la révolution culturelle par rapport au confucianisme ou au taoïsme ?
Alors, Confucius a été déclaré, de même que le maréchal Lin Piao, donc il n'y a aucun rapport, la principale chose qu'il fallait changer en Chine. Et il y a eu vraiment, de toute façon, tous les pouvoirs forts qu'il y a eu, enfin totalitaires même on peut dire, qu'il y a eu en Chine, se sont rendus compte qu'il fallait extirper le confucianisme. Parce que le taoïsme, je dirais, beaucoup moins... Oui, mais justement, ça ne les ennuie pas. C'est-à-dire que si vous êtes anarchiste, vous ne les ennuyez pas, quelque part. Anarchiste, le terme, moi je l'ai prononcé, mais il est moderne. Mais là, vous ne les ennuyez pas, c'est-à-dire que en face de quelqu'un qui met un pouvoir dictatorial très très fort en place, vous dites oui, mais moi je pense que mentalement il ne faut pas qu'il y ait la notion de pouvoir, etc. Tout le cas, il dit bon, bravo, très bien. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui a un système d'infléchir le pouvoir, de porter les hommes les plus vertueux au pouvoir, ou n'importe quoi, bon, ça ils aiment moins. Parce que finalement, il faut qu'il y ait des soupapes de sécurité. Donc finalement, les grands dictateurs, etc., ils n'ont rien contre le non-agir, d'une certaine manière. C'est pas des spécialistes de la philosophie, hein, c'est pas le domaine qui les intéresse le plus sur Terre. Hein. Mais souvent, je veux dire, on s'est quand même servi beaucoup, différents régimes, même bizarres, se sont servis du taoïsme, hein, non pas du taoïsme en tant que philosophie, mais de certains passages du Tao Te Ching, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est des passages très, très difficiles à comprendre, avec un sens extrêmement obscur. Oui.
Il y en a quand même des gens
qui ont aussi. Oui, non, je dis pas le contraire. Hein.
Oui.
Bah, la preuve, c'est que nous aurons un atelier de lecture là-dessus. Oui.
Quelle différence peut-on faire entre le fait que l'ordre céleste soit prôné par le taoïsme et l'action humaine plutôt vers le non-agir avec la formule très connue latin ordo ab chaos?
Qui veut dire, pardon ?
Ça veut dire l'ordre sur le chaos, ou l'ordre vient-il du chaos, ou est-ce que l'ordre doit contenir ou submerger le chaos ?
Alors, la notion... Alors justement, non. La notion de chaos est extrêmement importante dans le taoïsme, et la notion d'ordre est assez peu importante. Parce que pour les taoïstes, il y a chaos. et il faut se rendre compte qu'on fait partie du chaos.
Oui, mais la formule de l'ordre, nous vivons dans un chaos, il faut amener de l'ordre dans l'univers, qu'il soit.
Oui.
Aussi bien dans l'être humain que dans l'univers céleste, quel qu'il soit.
Oui.
C'est quand même quelque chose qui peut être arrêté très proche et très éloigné.
Oui. Parce que je pense que pour quelqu'un comme Zhang Zhu, ce qu'il faut, c'est aller vers le chaos. Il faut accueillir le chaos en soi. Je pense.
Alors pour lui, le chaos serait l'ordre céleste ?
Attention.
Souvent dans le taoïsme, hein, on parle plus, hein, comment dirais-je, du ciel. Hein. Quand on parle déjà de l'ordre céleste, alors l'ordre céleste existe également dans les autres courants chinois, où là il y a cette source qu'on appelle, qu'on traduit par le mandat céleste. Mais quand même dans le taoïsme, le ciel est efficace sans agir. Et donc, le fait que nous on dise c'est un tas de choses qui est chaotique, ou c'est un tas de choses qui est ordonné, c'est une question, c'est nous-mêmes qui... Oui, qui projetons quelque chose, qui définissons quelque chose. Mais ce qui est alors je le trouve aujourd'hui chaotique et demain ordonné, c'est quelque chose qui me concerne. Et par exemple, il y a de nombreux personnages dans le taoïsme qui portent le nom de chaos, enfin traduit en français. Hein. C'est-à-dire que pour eux, accepter le chaos, c'est-à-dire non pas de... On est dans cette démarche, c'est-à-dire qu'on se dit, si je ne comprends pas toute chose du monde qui m'entoure, bon, ce qui est notre cas à la plupart, alors si je pousse les choses à l'extrême, cela m'apparaît comme étant chaotique. Et donc, mais si tout était chaotique et si je peux rien comprendre et tout, ça va pas. Alors pourquoi ça va pas? Juste vis-à-vis de moi, hein, parce qu'en fait le reste des choses est sous leur voie. Et dans le taoïsme, il y a cette idée que plutôt que de dire ça va pas, de vouloir mettre de l'ordre dans ce qui nous semble chaotique, si on s'ouvre, nous, à ce qui est chaotique, on accède à un autre régime de la pensée.
Oui, mais à ce moment-là, c'est le monde des apparences. Autant, si, quand on regardait l'astronomie de Ptolémée, on voyait d'un seul coup un astre aller dans le ciel et puis d'un seul coup faire une courbe un petit peu bizarre pour continuer, alors que les autres ne le faisaient pas. À partir du moment où on arrive aux systèmes de Copernic ou de Galilée, on comprend très bien pourquoi il y a ce mouvement. Parce que le centre du monde, de l'univers n'est pas la Terre, mais à ce moment-là, de cet univers est le Soleil, etc., etc. Donc, on peut dire que c'est quelque chose lié à la science. C'est pas du tout le propos du taoïsme.
Non.
Alors, quelle est la compréhension que le taoïsme peut avoir de ce chaos et de cet ordre nouveau?
Mais je ne crois pas qu'il y ait une notion d'ordre comme ça dans le taoïsme, enfin pour autant.
Mais c'est toi qui as parlé d'ordre céleste.
Oui, oui. Oui.
Je crois que tu as parlé de Gauss, dans la pensée chinoise, l'idée de compréhension, dans le caractère d'autres pensées.
D'accord.
Est-ce qu'on ne peut pas dire, je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut pas dire que le taoïsme serait.
Moi, j'ai rien contre, j'ai rien pour non plus, hein, je dirais que c'est le seul problème, parce qu'en fait, on a affaire à un certain nombre de techniques, enfin, techniques, peut-être que c'est pas le terme, mental, qui permettent d'accéder à d'autres régimes de la pensée. C'est la base du Tao. Alors maintenant, je le dis en mots français modernes, d'accord. Et il y a un ensemble de techniques, de différentes manières d'éprouver certaines formes de vertige intérieur, etc., donc, qui sont la base de la pensée taoïste. En Occident, on connaît mal ce genre de technique, donc le dire, bon... Et personnellement, je ne connais pas du tout l'animisme, donc alors là, vraiment... Oui.
Et quand ça concerne tout un peuple et tout le jour d'un tyran,
J'ai du mal à comprendre que le tarot peut apporter. On ne peut pas ne pas agir, ça paraît
Ce que vous dites, ce que vous dites, c'est la pensée confucéenne. Donc on a affaire à deux pensées qui sont relativement opposées, à mon avis, et donc ce que vous dites, c'est vraiment la pensée confucéenne.
Est-ce que vraiment, il y a une lutte pour que l'autre disparaisse, ou est-ce que finalement, chacun pouvait comprendre que vous pouvez...
Ah ben de toute façon, s'il y a bien une société qui a été multi-religieuse, à part des visions, c'était la société chinoise. Mais à mon avis, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une société qui a pu être multi-religieuse ou multi-philosophique, c'est-à-dire qui a pu être à la fois bouddhiste, les mêmes personnes étaient plus ou moins bouddhistes, etc. Bon, mais quand même, quand vous allez vers les gars qui connaissent ces doctrines, ils ne sont pas multi-religieux. Oui, parce que je veux dire finalement, cette espèce de religion chinoise où finalement les gens, pour certaines occasions, sont volontiers bouddhistes, pour d'autres ils ont plutôt un raisonnement confucéen, etc. Quand vous arrivez au gars qui connaît vraiment le bouddhisme, qui connaît vraiment le confucianisme, il sait ce qu'il y connaît et il sait pourquoi il le connaît. Donc je crois qu'il y a une sorte de religion effectivement populaire, vu que tout ça semblait des chemins de sagesse. Comment dirais-je, qu'aucune de ces mouvements finalement ne faisait une sorte d'excommunion, je dirais plutôt, des autres, que finalement il y a eu différents ponts, par exemple, je pense même une forme de bouddhisme, par exemple comme le Chan, que vous connaissez également sous la forme du Zen japonais, est quelque chose qui était complètement, à mon avis, influencé par le Tao, c'est évident. Donc au début c'était un bouddhisme dévotionnel du nord de la Chine, et quand on voit ce que c'est devenu maintenant, c'est très très différent. Donc ces mouvements se sont mutuellement, je pense, influencés, mais je pense qu'on ne peut pas nous empêcher de les comprendre, et les comprendre quelque part, c'est aussi, suivant la personnalité, comme vous étiez tout à l'heure plus proche effectivement du confucianisme, opérer un certain nombre de choix.
D'une manière historique, dans l'histoire, oui. De la Chine dans le 19e siècle, est-ce qu'il y a eu des choses équivalentes à nos guerres de religion?
Que je sache, non.
Il y a des persécutions, quand même, de la part des pauvres.
Oui.
C'était
oui.
Des persécutions politiques ou religieuses?
Bon, je ne peux pas en quelque sorte globaliser plusieurs siècles en quelques mots, oui. Mais globalement, si vous voulez, il y a eu, je pense que souvent c'était comme des persécutions d'ordre économique, oui, vis-à-vis des monastères, parce que quand même, notamment les monastères bouddhiques, pour l'édification de statues ou de choses comme ça, ont amassé vraiment trop de métal précieux. Et à un moment donné, ça a fait vraiment un déficit, c'était la monnaie de l'époque, un déficit de l'argent fiduciaire, en quelque sorte, dans le pays, et puis quand même, amener ou faire main basse sur le monastère, ça semblait quand même une affaire rentable. Écoutez, je vous propose donc, merci de votre participation. Sur cela, merci, c'est pas la fin. Merci. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, nous pouvons nous retrouver dans deux semaines, cette fois-ci en atelier de lecture, pour justement voir des textes taoïstes. Et je vous remets, servez-vous, le script d'aujourd'hui.
La question qui est posée à la dame était quand même assez amusante, parce que si on pousse la chose, le raisonnement à fond,
ah voilà, moi c'est la traduction que je préfère, cette traduction
c'est inversé.
Ouais,
il y avait aussi dans la collection Idées, qui avait servi il y a une trentaine d'années. Mais celui-là, il est très lisible, je ne peux pas juger la qualité de la traduction, mais il y a un certain nombre de textes qui sont parfaitement
lisibles. Oui, mais justement, il semblerait qu'il y ait une légère simplification.
Okay.
Mais c'est une traduction qui est reconnue et...
Ok, merci. À partir du moment où on dit le non-agir est responsable, vous voyez, du tâteau, etc.